Et c'est aussi un évangile de la radicalité. Parce qu'en fait, pour être radical dans notre suivi de Jésus, il faut être miséricordieux. Sinon, on vit autre chose, mais certainement pas l'évangile. Et donc, c'est un évangile de la radicalité, et l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle, nous dit cette radicalité, nous rappelle cette radicalité. Alors, vous l'avez entendu, moi, je vais déduire les deux éléments premiers de cet évangile, mais on pourrait ensuite en déduire d'autres éléments. Déjà, la parabole est étonnante. On a l'impression que Jésus fait l'éloge à travers cette parabole, l'éloge de ceux qui se font des amis avec l'argent des autres, avec l'argent du patron, ce qui est quand même pas tout à fait correct. Bon, c'est pas vraiment cela, les paraboles, il y a toujours dans l'histoire, il y a ce que Jésus veut nous enseigner, mais évidemment, il ne s'agit pas de calquer ce qu'il nous enseigne. Mais Jésus nous dit quelque chose de très très important, et ça nous est dit à la fin de l'évangile de façon très claire: vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ça nous interpelle sur notre rapport à l'argent, sur notre rapport au bien matériel en général, par rapport à notre vie spirituelle, sur notre rapport à l'argent. Certes, l'argent, il en faut, c'est un bon serviteur, et nous avons besoin de ce serviteur, il ne s'agit pas de négliger la gestion de l'argent, mais il faut le mettre à sa bonne place. La première lecture nous rappelle aussi combien l'argent est dangereux, qu'il peut être un vrai maître, et même un maître tyrannique, qui nous oblige à faire des choses mauvaises. Saint Paul le dira aussi de son côté, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. La racine de tous les maux. Donc, notre rapport à l'argent doit être questionné régulièrement. Nous devons nous demander ce que nous faisons des biens matériels, comment nous les gérons. Et nous savons, dans le contexte de la société d'aujourd'hui, certains économistes sont très clairs. Vous voulez préserver la planète, être écologique, vous voulez que la crise énergétique s'arrête, eh bien, soyez pauvres. En général, les pauvres polluent moins, et les pauvres n'ont pas de problème, enfin moins, ils n'ont pas le même rapport, ils consomment moins d'énergie, voilà. Évidemment, dans nos sociétés, c'est un peu particulier, parce que nos pauvres, les pauvres qui sont dans notre société, eh bien, consomment de l'énergie, parce que nous sommes des pays riches, et donc nous consommons beaucoup. Voilà. Et donc, c'est un éloge de la pauvreté choisie, la simplicité de vie. Les papes nous ont interpellés là-dessus, depuis pas mal de temps déjà, nous interpellent sur une certaine sobriété de vie, simplicité de vie, à chacun de discerner ce qu'il faut faire, comment le vivre, comment l'appliquer. Alors, je ne vais pas prendre trop d'exemples concrets, pour ne viser personne. Mais c'est surtout parce que chacun doit faire un peu son chemin. Simplement, je rappellerai qu'il y a une tradition dans l'Église qui se vit encore dans certaines régions du globe, et peut-être même chez nous encore, qui est de donner une partie de ses revenus, de consacrer une partie de ses revenus pour les pauvres, déjà. Alors, en Église, on rappelle ça régulièrement. On invite à faire des collectes pour les gens qui en ont le besoin, pour les pauvres, une partie de l'argent pour la vie de l'Église, puisque l'Église, dans les pays comme le nôtre, c'est très clair, mais de façon habituelle, l'Église ne vit que des dons. On ne construit des églises qu'avec des dons. On ne fait vivre les ministres de l'Église qu'avec des dons. Comme dit Saint Paul et Jésus, un bon travailleur mérite son salaire. On ne fait vivre le fonctionnement de l'Église habituelle qu'avec les dons. Et puis, une troisième part a toujours été consacrée aussi pour la mission, pour envoyer les missionnaires, pour travailler à la mission. Et aussi, il est normal de pouvoir consacrer une partie de nos revenus pour que la mission puisse être annoncée, pour que Jésus puisse être annoncé à notre monde. Ça peut prendre de différentes formes. En tout cas, voilà, ça fait partie des pistes de réflexion, mais ce qui nous interroge, c'est quel est notre maître. On ne peut pas servir d'eux. Quel est notre maître? Quel est notre rapport à l'argent? comment nous vivons. Est-ce que nous vivons, nous recherchons l'abondance, toujours plus d'abondance, ou bien est-ce que nous choisissons de vivre plus simplement et de trouver notre bonheur ailleurs que dans uniquement les biens matériels. Le deuxième élément que nous dit cet évangile et qui m'a toujours interpellé, c'est cette parole de Jésus qui nous dit que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes parfois des fils de ce monde. Quand il s'agit de faire un bon business, un bon projet, même dans les choses toutes simples de la vie, hein, un abonnement téléphonique, un abonnement internet, un bon contrat d'assurance, etc. Là, nous prenons le temps qu'il faut, nous savons faire les études qu'il faut, chercher les documents qu'il faut, se renseigner comme il faut, etc. Par contre, quand il s'agit de faire annoncer l'évangile, de croître en sainteté, de donner la place au Seigneur, là, d'un seul coup, on bloque, on a moins d'idées. L'enjeu, pourtant, est plus important, mais on le vit psychologiquement comme quelque chose de moins vital, de moins déterminant pour notre vie, à tort, hein, bien sûr, mais voilà. Et donc, cette interpellation, cette parole de Jésus doit vraiment nous interpeller. Hein, nous devons d'abord être des fils de la lumière, nous sommes des fils de la lumière, mais nous devons nous comporter en fils de la lumière, mais en étant habiles. Des fils de la lumière habiles, qui savent prendre leur vie en main et qui savent faire un bon business dans le domaine spirituel, qui savent vraiment faire des bons contrats avec le Seigneur. Hein, nous, on vous propose sur la paroisse l'adoration comme une aide. Ceux qui n'arrivent pas à prier, prenez l'adoration. C'est un rendez-vous, ça vous oblige, ça vous contraint et ça nous met en prière. On peut ensuite trouver d'autres moyens, des propositions sont faites, mais aussi on peut trouver de notre côté, chacun de notre côté, des petits moyens. Je sais qu'aujourd'hui, avec Internet et tout ça, on arrive à trouver plein de choses. Par exemple, dans le carême, je pense que... Enfin bon, je connais que ma paroisse. Mais je pense que sur la paroisse, depuis quelques années, on vit mieux globalement le carême parce qu'il y a des moyens qui nous sont proposés. Alors, il y a Exodus, mais il y a aussi des petites applications qui nous aident à vivre notre vie spirituelle, etc. En tout cas, soyons inventifs, y compris pour aider nos frères les pauvres, soyons inventifs, y compris pour évangéliser. Soyons inventifs. Demandons au Seigneur de nous aider à ne pas négliger cet aspect-là de notre vie, à ne pas considérer que simplement parce que je suis croyant, je vais à la messe, je me confesse minimum une fois par an, et eh bien, je suis en règle, donc tout va bien. Le Seigneur ne veut pas simplement nous sauver, ah, c'est sûr, il veut nous sauver. Il ne veut pas simplement nous sauver, mais il veut nous sanctifier. Il veut faire de nous des saints. Et il nous faut répondre à cet appel dès ici-bas, sur cette terre, à l'appel à la sainteté. Il faut prendre les moyens d'être des saints. Voilà. Pour vivre cela, pour vivre cette inventivité des fils de la lumière, il nous faut nous appuyer, bien sûr, sur la vie des paroisses. C'est ce que nous essayons de faire déjà. Mais il nous faut bien nous appuyer sur la vie des paroisses, mettre Jésus au centre dans nos paroisses, donner vraiment cette importance, donner Jésus au centre et encourager, stimuler la vie communautaire et la vie fraternelle. Nous devons être inventifs aussi dans ce sens. Sur la paroisse, on propose des choses, mais c'est très important de ne pas négliger notre vie communautaire entre nous. Pour construire, pour vivre la paroisse et vivre l'évangile, il faut le choisir. Il ne faut pas simplement le désirer vaguement, mais il faut vraiment choisir que suivre Jésus, mettre Jésus au centre, entretenir notre vie spirituelle, et il faut choisir de construire le royaume à travers la vie chrétienne et la vie communautaire chrétienne et paroissiale. En tout cas, c'est une interpellation à être beaucoup plus inventif, habile, d'être beaucoup plus inventif, habile et intelligent et rusé, je reprends les termes de Jésus, hein. Beaucoup plus habile, inventif, intelligent et rusé en ce qui concerne notre vie chrétienne. Ça s'adresse à chacun personnellement, ça s'adresse aussi à l'ensemble de nos communautés. Je voudrais simplement, pour terminer, souligner ce que nous dit la seconde lecture, la deuxième lecture, qui nous invite, je cite, « Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaise intention. » Une invitation à prier pour ceux qui nous gouvernent. On a propension facile à critiquer ceux qui nous gouvernent, et puis parfois, on a des bonnes raisons, parfois. Mais ce n'est pas cela qui va changer le monde. Ça, c'est bien gentil, mais ça ne change rien. Il nous faut au contraire prier pour ceux qui nous gouvernent, pour vivre dans la paix, dit saint Paul. N'oublions pas qu'à l'époque où saint Paul parle, il y avait très peu de chrétiens. Ils étaient tout à fait minoritaires, plus minoritaires qu'aujourd'hui chez nous. Et donc, ils étaient convaincus que par la prière, ils pourraient obtenir la paix. Que par la prière, ils pourraient faire que les dirigeants, même s'ils n'étaient pas chrétiens, il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'ils deviennent chrétiens, et que les dirigeants prendront des bonnes décisions. Il nous faut donc prier. Prier, nous dit saint Paul, saintement, sans colère ni mauvaise intention, en élevant les mains en plus. En élevant les mains, saintement, sans colère ni mauvaise intention. Une mauvaise intention dans nos cœurs, vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis même peut-être de nos gouvernants, une mauvaise intention peut gâcher notre prière et lui donner une fécondité zéro. C'est parce que nous avons une bonne intention, c'est parce que nous prions saintement, sans colère, que le Seigneur peut écouter notre prière. Croyons en la puissance de la prière. Amen.